Vous écoutez RTL.
RTL,
à la bonne heure.
Stéphane Bern.
Je vous ai présenté toute l'équipe d'À la bonne heure en ce mercredi 12 novembre, mais je vous présente notre invité. Il y a très exactement 40 ans, à l'automne 74, il posait le pied sur le quai de la gare d'Austerlitz à Paris, sans connaître personne, sans argent, sans adresse, mais prêt à conquérir Paris en faisant des imitations dans un cabaret. 40 ans après, il est l'un des showmen les plus populaires de France, dont les chansons aux accents grivois font tourner les serviettes ou danser sur les sardines et les petits bonhommes en mousse. Doublé d'un animateur de télévision hors pair qui a gardé son œil d'enfant lorsqu'il voit d'autres artistes se produire dans son grand cabaret. Sans oublier qu'il reste un formidable acteur capable d'entrer dans la peau d'un boucher assassin avec maestria et rassembler près de 5 millions de téléspectateurs devant Max et la rumeur sur France 2. Vendredi soir, jour de son anniversaire, il sera sur la scène de l'Olympia pour fêter ses 40 ans de succès dans The Fiesta, diffusé en direct sur France 2. Dans le même temps, sort chez XO Éditions son nouveau livre, car l'écriture est aussi sa passion, Frédéric Dardesque, même que ça se peut pas. Avec nous ce matin au micro d'RTL, Patrick Sébastien qui est venu fêter son anniversaire et ses 40 ans de saltimbanque.
Quelle belle date le 14 novembre, vraiment
mais
Stéphane.
N'est-ce pas ?
Mais on dirait qu'il recrute sur le service public par rapport
c'est
au 14 novembre.
Oui.
Stéphane, moi, il n'a
dit. Ah oui, mais est-ce que
et
Stéphane
Marino a fait longtemps
les horoscopes, non
hein
ça, ça arrive.
Oui.
Mais est-ce que Stéphane va faire tourner les serviettes sur la scène de l'Olympia aussi
mais j'aurais bien aimé. Il aurait bien aimé, je lui ai proposé quelque chose. Mais ses copains, il est pris.
Bon, il va le faire ce matin.
Parce qu'il n'y a que des surprises. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y aura, mais je peux vous dire, vous allez vous régaler. On a redéguisé des gens. Il y aura une.
Et c'est vrai que la salle,
Il y aura une fausse Tina Turner, il y aura un faux Michael Jackson, mais des vraies surprises, des trucs de fou. Moi, il y a mon orchestre, je vais chanter des trucs. Il y a plein d'invités, j'ai mes copains qui viennent, Danny Boone, qui a accepté de me refaire un sketch.
Et le public sera déguisé.
J'avais fait ça en 84 à l'Olympia pour une première, quand j'avais la petite Céline Dion en première partie. J'avais demandé à tout le public de venir déguisé en tout. Et on ne s'attendait pas à ce que ce soit ce point-là. Et c'était extraordinaire. Donc vendredi soir, on a demandé à tout le monde de venir en ce qu'ils voulaient. J'ai déjà des mecs qui m'ont donné leur déguisement. Il y a des idées géniales. J'ai un couple d'amis qui sont déguisés en 118 et en 218. J'en ai un qui est déguisé en radar et sa femme en flic. Enfin, il y a de tout. Il y aura des gladiateurs, des.
Je suis déguisé en skieur. Beaucoup de Patrick Sébastien dans la salle.
Ce qui va être marrant, c'est les gens qui vont arriver en taxi dans Paris déguisés en. Si vous voyez vendredi soir des mecs déguisé. On leur a interdit de se déguiser en clown.
Mais surtout le type déguisé en radar, il va se faire casser la gueule par chauffeur de taxi.
On les a laissés libres de tout. Je sais qu'il y a des potes qui viennent. Enfin, des potes. Cet été, j'ai fait un festival absolument hallucinant à Poupée en Vendée où il y avait des gens, 8000 mecs déguisés qui sautaient pas. Ils viennent à 200 en quart, déguisés en sais pas en quoi. Donc, il y aura le spectacle dans la salle. Il y a le journal qui fait un duplex d'ailleurs avec les gens dans le hall. Et puis après, sur scène, ça va être.
Ça met une pression supplémentaire, le fait que ça ne soit pas seulement un spectacle sur la scène de l'Olympia, mais en même temps en direct sur France 2.
Moi, j'ai mes chansons, mais je fais venir des gens avec moi. Pendant les sardines, il y aura une belle surprise. Pendant Petit Bonhomme en mousse, il y a une autre surprise. Il y a plein de choses. Donc ça met une pression. La seule pression, c'est le problème technique, quoi, parce qu'on a très peu de temps. Ayam qui finit le 12. On peut commencer à répéter qu'à partir de 5h de l'après-midi la veille. Donc ça va être là.
Techniquement, ça va être dur.
Mais ça va être. J'espère que ça va être.
Mais Giscard Antina Turner, c'est une bonne idée.
Oui. C'est pas Giscard.
C'est pas loin.
Ça va vous étonner.
Et puis il y a ce livre, Patrick, parce que l'écriture fait partie de votre vie maintenant.
Il y a des gens qui me suivent depuis pas mal de bouquins. Et d'après mon éditeur, c'est celui qui est le plus intéressant. Ouais, je raconte, mais au-delà des anecdotes à l'intérieur. Je raconte un peu c'est plus une analyse sur la célébrité, sur l'image.
Et vous racontez?
Puis sur comment on se relève, comment on se sert de ces blessures pour les bonifier, pour les positiver.
Alors, un mot justement sur le titre. Il vient de l'anecdote que vous racontez, c'est-à-dire qu'enfant, vous regardiez le téléviseur qui était dans la boutique d'électroménager.
Je n'étais pas comme toi, moi je n'étais pas.
C'est
pour ça. Non, je n'avais pas de thune. Et on était sur la place du village, il y a un mec qui laissait ses télés allumées dans la vitrine de son magasin. Et on était avec un pote sur le banc. Et je lui disais, tu vois, mon père ne m'a pas reconnu. Un jour, je lui dis, mon père ne m'a pas reconnu, si je passe là-dedans, tout le monde me reconnaîtra. Il me boit même que ça se peut pas. J'ai gardé ça, et voilà, puis ça se peut.
Mais au fond, ça veut
dire que tous les rêves deviennent possibles dès lors qu'on se donne les moyens de les réaliser.
Non, moi, ce que j'explique dans le bouquin, je crois au destin. Je sais pas ce que celui, ils sont devenus possibles, mais j'y suis pour rien, j'en sais rien. Moi, c'est pas moi qui ai écrit.
Oui, mais
je crois
que vous y croyez à votre rêve.
Bien sûr que j'y crois à mon rêve, mais ça aurait pu très bien ne pas arriver. Mmh. C'est le, je crois au destin. Il y a toute une théorie sur les choses qui sont déjà écrites. C'est-à-dire qu'il est déjà écrit, tu vas prendre la feuille qui est à ta gauche, là, ici.
Ah, oui. Parce que, surtout, c'est ce qui est écrit, c'est l'énigme du mercredi.
Voilà, c'est
ce qui va permettre de gagner, mon cher Patrick.
Je peux jouer?
Ah, bah oui, bien sûr. C'est tout, c'est qu'il faut téléphoner au 3210 ou au 74-900 envoyé par SMS. Bonheur. Alors, pour cela, on peut gagner un week-end ou un séjour, parce que parfois c'est une semaine, ça tout dépend de la catégorie de l'hôtel. C'est hôtel 5 étoiles, 6 buettes, maison et hôtel 6 buettes. Et on peut aller voir sur le site experience-6buettes.com. Et alors, l'énigme du mercredi, c'est une expression populaire. D'où vient l'expression « passer un savon » qui veut dire réprimander, engueuler, hein. On se demande vraiment ce que vient faire le savon.
C'est une expression carcérale
non, la savonnette, c'est après.
Non.
C'est...
On aurait pu croire, mais c'est pas ça. Non.
Vous pouvez engueuler si vous ramassez la savonnette.
Mais, non, mais ça aurait pu être carcéral, mais ça n'est pas.
Mais là, c'est d'où vient l'expression « passer un savon ». Alors tout de suite, 3210 ou 74-900.
RTL, à la bonne heure, Stéphane Bern.
Et nous sommes toujours avec Patrick Sébastien, notre invité. À la fois pour The Fiesta, c'est alors, il y a encore des places, on peut encore non.
Je pense que tout a été ça a été fait sur invitation. Donc il y a des gens, il y a des copains, il y a des mecs qui ont demandé de partout. Puis il y a quelques people qui ont répondu ceux qui n'avaient pas de boulot. Il y a plein qui viennent, je sais pas quoi.
Donc sinon on regarde France 2 à 20h30.
On va regarder France 2 à 20h30 et on va avoir du show.
Voilà. Et sinon même que ça se peut pas. Aux éditions XO. Il y a 40 ans, donc, vous avez débarqué à Paris. Vous vous en souvenez de ce... Vous aviez 600 francs dans la poche, c'est ça?
Ouais, j'ai pris le train le matin à Brive et j'ai déboulé gare d'Austerlitz, mais sans adresse du tout. C'est-à-dire,
Vous ne saviez pas où vous alliez dormir le soir?
Non. J'ai traversé, je suis pas allé bien loin, j'ai traversé le boulevard de l'hôpital, j'ai découvert Paris en plus. Parce que j'étais venu une fois, j'étais passé une fois par Paris quand je jouais au rugby. J'avais été remplaçant dans une finale avant. Et j'ai traversé le boulevard de l'hôpital et je suis dans une petite rue qui est juste derrière. Je me cherchais un hôtel naze.
Avec pas cher.
Il y avait des putes partout. Ça coûtait plus rien du tout.
L'hôtel ou la pute
je le dis dans le bouquin, les putes au prix des chambres. Et je me suis installé
ça
là.
Ça avait une chambre garnie.
Et la première chose que j'ai fait, j'ai pris le métro. Parce que je l'avais jamais pris. Je suis allé faire le tour de Paris en métro avec un seul ticket. Je fais mon petit tour. Et puis, en revenant, je suis allé dans le kiosque qui était devant. Et j'ai acheté Pariscope à l'époque. Il y avait Pariscope et l'officiel du spectacle. J'ai commencé à regarder les numéros des cabarets. Puis, il n'y avait pas de portable. On était loin, vraiment loin de tout, tu vois. Et puis, j'ai pris la cabine téléphonique et j'ai commencé à faire allô, la rôtisserie de l'abbaye. Allô, est-ce que vous voulez me prendre pour... Et j'ai fait des auditions pendant un bon moment. Alors, ils ne me voulaient pas parce que j'avais pas le physique d'un imitateur. C'est-à-dire qu'il me disait un imitateur, ça doit un physique passe-partout. C'est l'époque de Thierry, tu vois. Ça doit être quelqu'un de. Moi j'arrivais avec ma carrure de rugbyman. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, j'ai appuyé beaucoup sur mon physique pour faire ça. Et donc, j'ai ramé comme ça pendant. J'avais trouvé une piole dans le 17e, 6 étages sans ascenseur, avec, je sais pas, ça faisait 1 mètre sur 2, quoi.
Moi,
avec un robinet d'eau froide, mais c'était vachement bien. J'entends les mômes se plaindre aujourd'hui, j'ai 20 pieds, je suis en pleine forme, c'était
et
super.
Puis vous aviez envie de dévorer.
J'avais envie
quoi.
De bouffer tout, quoi. Oui. Et puis je me suis retrouvé donc le 14 novembre, ça me fait drôle d'ailleurs d'en parler aujourd'hui, parce que j'ai. Il pleuvait, oh là, c'était terrible, je voulais redescendre chez moi, j'en pouvais plus. J'avais plus de thunes, j'avais plus rien. Et il y a un monsieur qui s'appelait Jacques Gauthier, qui tenait un truc qui s'appelle La Main au Panier, qui existe toujours d'ailleurs, et qui m'a dit, je te prends ce soir. Je crois que ça a été un des plus beaux jours de ma vie. Tu veux gagner 30 francs. J'étais heureux. Hein. Et après, j'ai commencé là, et puis après, j'ai commencé à faire des remplacements, et puis aller faire un autre, et le Port du Salut, le pénitencier existe toujours, je crois.
Mais vous avez fait des rencontres, dans le livre, vous racontez des rencontres fabuleuses.
Ah, j'ai fait des rencontres.
Coluche.
Puis je raconte pas toutes les rencontres que j'ai fait en dehors, la nuit, qui sont, comme j'étais un oiseau de nuit, j'ai rencontré des gens extraordinaires. C'est vrai que ce qui pourrait m'arriver de pire, c'est Alzheimer, quoi. C'est de pas me souvenir.
Il y a des choses qu'on apprend.
De Brassens, de Funès, de tout
de
ça.
De Funès qui vous a donné des conseils qui vous ont dit dans la vie.
Ah ben, tu t'imagines pas.
Alors c'est quoi ces conseils?
Je peux pas tout vous dire parce que c'était privé, mais il est resté une heure avec moi derrière pour me dire. Les conseils, en gros, c'était ce qui s'était appliqué à lui, c'est ne dévie jamais de ton chemin, quelles que soient les critiques que tu prends, et Dieu sait s'il en a eu. Ne dévie jamais de ton chemin, ne te laisse pas guider par un courant, une mode, etc. Parce que c'est toi qui disparaîtras. Mmh. Parce que la mode, on disparaît avec la mode. Et ne te laisse guider que par tes envies. Il m'a dit des choses très jolies, parce que je lui disais avec le talent, entre parenthèses, tu vois, que vous avez, pourquoi vous jouez pas des drames? Et il m'a dit, mais le bon Dieu m'a donné cette chance extraordinaire de faire rire qu'il donne pas à tout le monde. Mmh. Et ça serait ingrat de passer à autre chose. Enfin, il m'a dit des choses extraordinaires que je garde toujours en tête. Et ne pas céder aux critiques des élites, etc. Lui, de Funès, ils l'ont reconnu. Qu'est-ce qu'ils ont pris dans la gueule? Qu'est-ce qu'ils lui ont mis?
C'est même après.
Alors aujourd'hui, maintenant, ça devient culte, mais qu'est-ce qu'ils lui ont mis? Il en souffrait beaucoup, hein. Ça l'a beaucoup fait souffrir.
Mais ce qu'on découvre aussi, c'est toutes vos souffrances dans ce livre.
Mais comme. Si tu veux, des souffrances, j'en ai,
bien sûr, d'autres.
Plein de gens en ont. C'est justement parce qu'on est jumeaux de souffrance avec plein de gens, anonymes, que je veux leur expliquer que, dans le livre, que, à partir de ces souffrances, il faut pas s'asseoir dans un coin et geindre. On se plaint beaucoup dans notre pays. On n'arrête pas de se plaindre. Je connais des gens qui ont des vies très, très difficiles, qui ne se plaignent pas, qui se servent de leur souffrance. C'est une chance.
Mais cet épisode de 75, après la rencontre avec Marie Myriam,
c'est une histoire d'amour banale. Hein. C'était, j'étais son premier garçon, né de gagner l'Eurovision. Puis ça a été une histoire d'amour banale. Et ce que j'ai tiré comme ce que je raconte dans le livre, c'est ça qui est le plus intéressant.
Que ça a failli vous coûter la vie.
Ouais, parce que un chagrin d'amour, c'est un chagrin d'amour. J'ai voulu me suicider. Alors, tu vois, si j'avais voulu vraiment, je l'aurais fait. Mais c'est vrai que j'ai deux fois, j'ai avalé des cachets, j'ai fait des trucs.
Et
de
vous trouvez est-ce que je trouve non, c'est ça.
Du père de Johnny, Non, mais ce qui est fou, la leçon que j'essaie de donner aux gens dans cette histoire, c'est que le garçon qui m'a pris, Marie à l'époque, qui est devenu son mari, on s'est battu comme des chiffres, il était gaillard en plus, on s'est mis les mains, on s'est envoyé cher. Hein. Et ce mec, je le détestais. Et il y a un an, Michel, il est mort, il a eu un infarctus, et ça m'a fait vraiment de la peine. Mmh. Et Marie, qui est restée mon amie, ça s'est passé avec le temps. Et j'écris ça pour dire aux gens qui ont un chagrin d'amour, le temps change beaucoup de choses. Ce mec qui m'a pris, celle qui était à l'époque, la femme de ma vie, de savoir qu'il n'est plus aujourd'hui, c'est une part de moi qui n'est plus là, et je trouve ça, c'est une belle leçon. C'est-à-dire que ça fait de la peine, et c'est pour expliquer aux gens, le bouquin c'est que ça, c'est vous êtes dans une souffrance, il y a toujours, ce que me disait ma maman, c'est pas la fin de quelque chose, c'est toujours le début d'autre chose. Et aujourd'hui, dans ce pays où tout le monde se plaint, tout le monde dit c'est une catastrophe, c'est un machin, il y a un moment où qu'on entende un autre discours que celui-là, un discours un petit peu optimiste. Je vois les politiques là qui se battent, qui s'arrachent la gueule. Au lieu de se battre entre nous, il ferait mieux de se battre pour le pays.
Vous écoutez RTL.